Yves. Et oui, bonjour et bienvenue dans votre dernière émission des métiers de l'ombre qui met en lumière un mercredi sur deux ces héros de l'ombre invisibles mais indispensables à notre quotidien. C'est à 13h, juste après les voix de l'écho, sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais qui sont-ils vraiment ? Eh bien, ce sont ces personnes qui exercent des métiers discrets, parfois méconnus, mais essentiels à notre quotidien. Derrière chaque entreprise, chaque association, chaque grand projet, il y a ces petites mains qui font toute la différence. Alors je vous propose de rencontrer l'un de ces passionnés, de découvrir son métier, son parcours et ce qui le fait vibrer. Un instant pour lever le voile et donner la parole toutes les deux semaines à l'un de ces mystérieux individus au micro de Radio G. Il y a deux semaines, nous avons pu découvrir ensemble le parcours de Nicolas Boda, designer produit industriel. Après ses différents stages à l'étranger avec plusieurs péripéties, il décide de revenir s'installer à Angers et y développer son propre studio. Je vous invite à retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G, radio-g.fr, ainsi que sur Spotify. Nous voici aux portes des départs en vacances des juilletistes et qui sonne également la fin de cette deuxième saison des métiers de l'ombre. Mais également la fin de cette émission. Néanmoins, je vous retrouverai à la rentrée prochaine, toujours sur Radio G, mais on vous réserve une petite surprise avec Yves Maguin, mais je ne vous en dis pas plus. Malgré cela, aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une nouvelle femme de l'ombre qui veille au bien-être de ceux qui en ont le plus besoin et elle agit sur Angers. Alors je vous présente Eva Camus, sociologue et chargée de projet en santé communautaire. Bonjour Eva, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va et toi ?
Oui, super. Bienvenue dans l'émission. Alors Eva, nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour découvrir qui tu es, quel est ton parcours en passant par tes études, où tu as pas mal bougé en France, avant d'atterrir à Angers et y développer ta vie professionnelle. Puis je te demanderai de nous partager deux titres de musique que tu apprécies tout particulièrement. Tu es prête ?
Prête.
Alors on est parti. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire d'où tu viens ?
Alors, je m'appelle Eva Camus, j'ai 29 ans. Je viens de Bretagne, de Dinard, très précisément.
Une Bretonne ?
Exactement.
C'est bien ça, ça ramène un peu de fraîcheur sur Angers.
Exactement.
Parmi ces températures, ça fait du bien. Depuis combien de temps du coup t'es sur Angers ?
Eh bien, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que ça faisait 5 ans. 5-6 ans, oui.
5 ans. Et donc, comme on va le voir, grâce à tes études en soi, tu as suivi ton parcours qui t'a amené jusqu'à Angers.
Exactement.
Très bien. Donc, pourrais-tu nous définir de manière simple ton métier de sociologue dans un premier temps, peut-être, ou soit continuer directement sur le métier de chargé de projet en santé communautaire, nous expliquer vraiment ce que c'est.
Ok, j'ai essayé de le faire de manière un peu synthétique.
Oui, vas-y.
Être sociologue, c'est le fait de... travailler sur les interactions et les mécanismes de fonctionnement de la société, en tout cas d'un groupe social. Donc ça peut être sur des grandes tendances un peu générales, mais ça peut être aussi beaucoup plus macro, donc sur un territoire, sur une population donnée, dans un temps donné, avec, on va dire, un regard particulier.
D'accord. Il faut une expertise, un œil spécifique ?
Alors oui, il faut au minimum un master en sociologie. Mmh. Et ensuite, il y a les sociologues qui sont de l'enseignement et de la recherche. Donc, oui. Eux, ils ont un doctorat. Moi, je me suis arrêtée au master. Donc, je suis plutôt de l'équipe des sociologues qui vont faire de la sociologie appliquée. Donc, qui vont mettre à disposition les savoirs et les méthodes qu'on a appris pour développer des projets et des actions.
Et tu agis dans différents territoires ou simplement en centre-ville?
Alors, pour l'instant, sur le projet sur lequel je travaille, j'agis que sur le quartier de la Roseraie.
D'accord.
Mais les emplois que j'ai pu avoir avant m'ont fait travailler sur le département au global du Maine-et-Loire.
Oui.
Mais j'ai aussi travaillé sur la région, Pays de la Loire.
Ok, oui. Donc ça peut s'écarter au fur et à mesure en fonction des projets et
exactement.
De tes missions.
Et de la thématique en fait qui peut être abordée.
Bien sûr. Très bien. Et depuis combien de temps exerces-tu ce métier ?
Alors, j'exerce ce métier depuis 4 ans.
4 ans.
Près. Parce que j'étais en alternance, mais je suis diplômée depuis 4 ans.
Ok. Eh bien, on va remonter un petit peu en arrière. Et j'aimerais te poser la question, Eva. quel métier, justement, la petite Eva rêvait de faire quand elle était enfant?
Alors, la petite Eva, elle a voulu faire plein de métiers. Je pense qu'en fait, mon rêve, c'était un peu d'être Martin Matin.
Oui, et d'accord. Encore
aujourd'hui, des fois, ça m'arrive. Mais j'ai voulu être pompier pendant très longtemps.
D'accord. Donc, aider les gens un peu.
Exactement.
C'est un peu ce que tu fais aujourd'hui.
Oui. Sans la notion d'urgence, donc c'est plus agréable.
Oui, c'est ça. Mais au moins, tu prends le temps d'être avec les gens et de subvenir à leurs besoins.
Exactement. En tout cas, j'essaye.
Eh bien, en tout cas, c'est tout à ton honneur. Et avant d'en savoir plus sur ton parcours d'études, notamment dans le droit qui débute à Tours, je te propose une première petite pause musicale. Et comme dans chaque émission des Métiers de l'Ombre, j'aime proposer à nos auditeurs les morceaux qui rythment la vie de nos invités. Peux-tu nous dire quelle musique, toi, écoutes-tu le matin pour te motiver?
Alors, j'écoute Tamakoun, si je prononce bien, de Rodrigo et Gabriella.
D'accord, eh bien écoutons tout de suite Tamakoun de Rodrigo et Gabriella. Retour dans les métiers de l'ombre, vous nous écoutez sur Radio G 101.5 FM et aujourd'hui je suis avec Eva Camus, sociologue et chargée de projet en santé communautaire. Alors Eva, tu débutes tes études par une licence de droit à Tours. Tu avais un autre plan de carrière à cette époque ?
Oui. À cette époque-là, je voulais être avocate dans le droit des enfants. Je suis partie de mon bac avec cette idée en tête et donc j'ai tenté l'année de droit qui n'a pas été très très fructueuse pour être honnête. Et donc, je me suis après réorientée en com.
Direct après l'année suivante en soi.
Exactement.
Mais malgré tout, tu n'as pas non plus abandonné l'objectif des enfants aussi, parce que tu t'en occupes peut-être un petit peu aujourd'hui.
Oui, en fait, dans le cadre du projet sur lequel je travaille, donc qui s'appelle le projet RASCA, qui est porté par l'Institut de cancérologie de l'Ouest. On travaille avec des habitants et des professionnels du quartier, de la Roseraie. Et on a développé un projet qui a pour objectif de lutter contre l'adiposité précoce. Donc c'est l'obésité infantile. C'est d'essayer de faire en sorte d'éviter que des enfants tombent dans l'obésité, puisque les études montrent que plus on est dans une situation de défaveur sociale, plus on a des risques de développer des maladies, dont l'obésité. Bon. Donc finalement, j'essaye de toujours... les enfants restent une population sur laquelle j'essaye d'aider.
Donc tu vois, il y a un lien.
Il y a un lien, comme quoi.
Ensuite, donc, tu pars pour Aradon.
Exactement.
Pour une licence en sciences de l'information et de la communication, avec une option, celle de sciences politiques. On change un peu de sujet là.
Oui, on change complètement. Il y a eu un petit virage qui a été fait. Parce que j'aimais bien quand même communiquer, et même encore aujourd'hui, j'aime bien, mais communiquer au sens large, pas dans la communication pure, c'est pas trop mon truc, mais en règle générale, communiquer, je trouve ça intéressant. Donc, je suis partie en licence en sciences de l'information et de la communication, et premier semestre, on était plus sur un truc en option sur du multimédia, et ce qui est pas mon fort. Par contre, il y avait sciences politiques, et ça, c'était plutôt ma came. J'aime bien le fait d'analyser ce qui se passait dans le monde, les discours interculturels, etc. Et ce que ça pouvait en fait créer comme parfois incident presque diplomatique. Donc j'ai fait une licence avec cette option-là en fait, cette mineure. Et c'était hyper intéressant.
Ok. Et qui amène ensuite à une année de service civique, ouais, c'est ça ?
Ouais.
En tant qu'animatrice en centre social à Vannes.
Exactement. Alors en fait, pour l'anecdote, à l'issue de ma licence... J'ai fait une sorte de all-in sur un master en communication politique à Rennes.
D'accord.
Je voulais ce master.
Ok.
J'avais fait 2-3 articles pour ce master, et donc pour moi c'était celui-là et pas autre chose. Mmh. Bon bah je n'ai pas été retenue et donc c'est pas un conseil que je donne de faire un seul vœu. En fait très très mauvais plan. Et donc je me suis retrouvée sans rien, et en même temps avec du recul c'était je pense la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que ça m'a obligée de prendre une pause, d'aller vers quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. Et donc, je me suis inscrite en service civique dans un centre social pour être animatrice pour les enfants de 7 à 9 ans. J'avais fait des babysitting en étant jeune.
Oui,
mais
oui.
Alors, avoir des 20 enfants, en fait, à occuper, c'était assez inédit.
Bien sûr.
Et en plus, j'ai adoré. Pour le coup, l'expérience était vraiment chouette. Et l'expérience aussi, c'est ma première expérience dans un quartier prioritaire. Et c'était hyper intéressant. Pour le coup, c'est peut-être aussi ce qui me motive à rester sur ce genre de territoire, en fait, parce que c'est des territoires qui sont très vivants et très positifs, en fait.
Oui, tu as commencé à rentrer dans le vif du sujet à partir de ce moment-là, en fait.
Exactement.
Et de rentrer un peu dans le dur, comme on dit aussi, pour ensuite arriver à Luco, à Angers. Donc c'est là que tu arrives et que tu poses tes premières valises à Angers ?
Exactement. En fait... un peu avant la fin de mon service civique, donc il y a eu le Covid, et je me suis retrouvée à me dire bah là, faut que je refasse des vœux pour un master. Je vais pas faire deux fois la même erreur, et je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. La sociologie, vraiment, c'était pas encore dans mon champ de vision. Et donc, de manière un peu méthodique, j'ai repris mes bulletins de licence et j'ai checké les matières dans lesquelles je m'étais éclatée et les matières dans lesquelles j'avais des bonnes notes. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que tout ce qui était un peu sociologie, anthropologie, épidémiologie, etc., ça m'avait...
Tout ce qui finit en logie.
Logie, finalement. En tout cas, tout ce qui touchait aux sciences sociales pures, j'étais plutôt douée et je m'amusais à y aller. C'était des matières où j'allais en partiel, c'était pas la peur au ventre, mais c'était avec la hâte de faire quelque chose, quoi. Donc, je me suis dit, bah, let's go, je vais faire un master de socio. Et j'ai été prise à Angers.
Très bien. Puis tu continues ensuite avec une alternance.
Exactement.
En tant que chargée de mission insertion professionnelle des personnes exilées à la Fédération des acteurs de la solidarité, qui vont te garder ensuite en CDD.
Exactement. C'était une super expérience, très formateur. L'alternance, vraiment, je trouve que c'est le parfait entre deux. En fait, j'ai été embauchée parce qu'il fallait faire une sorte de guide pour accompagner les professionnels à eux-mêmes accompagner les personnes exilées. D'accord. Donc, bénéficiaires de la protection internationale, les personnes réfugiées, etc.
Tu enchaînes ensuite. Tu as été chargé de mission de réduction des inégalités sociales.
Ouais. Ouais. J'ai été à l'IREPS, qui est maintenant devenue Promotion Santé, où j'étais chargé de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
D'accord.
Moi, à la base, la santé, c'est pas quelque chose que je connais.
Oui.
C'est pas du tout un domaine que je maîtrise. Et encore aujourd'hui, je suis pas pro de santé. Mais en faisant tout le travail que j'ai fait à la FAS et en écrivant mon master, ça m'a permis de comprendre que la santé, c'est le point de départ ou le résultat des inégalités sociales. C'est-à-dire que quand tu rencontres des personnes qui vont être en situation de vulnérabilité ou de précarité,
oui,
et que tu échanges avec eux, très vite tu comprends que soit ça a été lié à une annonce d'une maladie importante, soit leur difficulté sociale a donné lieu à une maladie importante. Donc en fait, il y a un travail à faire sur ce sujet-là. Et donc en étant à l'IREPS, ça m'a permis de davantage d'étoffer un peu et de comprendre les mécanismes. Et par exemple, aujourd'hui, et pas depuis très longtemps, hein, mais il y a ce qu'on appelle le gradient social de santé, ce qui permet de comprendre de manière très visuelle le fait que plus on est dans une situation favorable socialement, moins on a de chances de développer une maladie. Mmh. Et donc les personnes qui sont le plus en bas sur l'échelle sociale,
oui,
c'est des personnes qui vont être beaucoup plus vulnérables au développement de certaines maladies. Enfin, en fait, de toutes les maladies. Et ces personnes le plus en bas, c'est aussi... Il y a les personnes à la rue, etc. Mais il faut pas que schématiser. C'est vraiment l'idée, c'est de se dire à partir de quand, de quel barreau d'échelle on va essayer d'aller
à quel niveau, à partir de quel niveau. Ouais.
Et donc en étant à l'IREPS avec des collègues, parce qu'on était chacune dans un département, moi j'étais sur le 49, on a coécrit un guide qui permet à des structures qui ont envie de développer des projets de réduction des inégalités sociales de pouvoir, en fait, on a fait ce guide pour essayer d'identifier les leviers d'action qui permettent à un projet de répondre au mieux à la réduction des inégalités sociales de santé.
Et donc là, tu occupes le poste aujourd'hui de chargé de projet au département de prévention de l'ICO.
Alors, moi je dis l'ICO, mais des gens disent l'ICO, je crois.
D'accord.
Que les deux peuvent fonctionner. Et oui, là, actuellement je fais ce travail-là.
Qui veut dire l'ICO, l'ICO?
Ah oui, pardon, c'est l'Institut de cancérologie de l'Ouest.
D'accord.
Et donc moi je travaille sur Angers, parce que je travaille sur un quartier très précis, qui est donc celui de la Roseraie. Mmh. Et l'idée, c'est de faire l'acronyme du projet pour lequel je travaille. Donc le projet s'appelle RASCA. L'acronyme, c'est une recherche-action en santé communautaire sur un quartier d'Angers. L'idée, c'est, au tout départ, c'était d'inverser un peu la dynamique projet. Et donc de se dire que plutôt que de construire un projet santé dans son coin, on va sur un territoire, mmh, rencontrer les gens. Là, le côté communautaire, il se définit par, en fait, c'est toute personne travaillant ou vivant à la Roseraie. C'est ce point commun qu'on a sélectionné. Et c'est de se dire, on va rencontrer les gens, les institutions, les assos, les habitants, pharmacie, boulangerie, enfin vraiment de ratisser un peu large pour parler du quartier aussi avec cette vision santé, en partant du principe que la santé, c'est pas l'absence de maladie ou le fait de vivre une maladie. La santé, c'est multiple. Finalement, aujourd'hui, on comprend, et l'OMS le dit très bien, tout fait santé. L'accès à la culture, c'est aussi un levier de santé. Donc voilà, ça c'est schématiquement le projet RASCA, c'est vraiment de partir des gens,
source.
Ouais, voilà, des gens qui vont bénéficier aux actions qu'on développe pour développer les actions.
Voilà, oui, en fonction, ouais, de la population qui y est, qui y vit.
Exactement.
Du coup, vous faites vos actions en fonction. Ouais. Et si, pour vraiment bien comprendre et rentrer de plus en plus en entonnoir dans ton quotidien, pourrais-tu nous raconter une journée, par exemple, comme celle d'hier ou de ce matin, tu vois,
ouais,
comment se déroule une journée pour toi de ton quotidien? Le matin, paf, tu écoutes Rodrigo et Gabriela. Et
exactement,
tu arrives à la Roseraie.
Je mets mes lentilles de contact, hop, je vais à la Roseraie. ça dépend, en fait c'est hyper dur parce que factuellement, mes journées ne se ressemblent pas.
C'est un peu le point commun avec tous les métiers de l'ombre.
J'ai l'impression du coup.
Oui.
Mais on va prendre par exemple un jeudi. J'essaye d'avoir quand même des jours un peu fixes. Mmh. Un jeudi, il y a les petits déjeuners au centre Jean Villard. Et le matin, j'arrive à 9h, 8h30, 9h au centre Jean Villard. Je suis avec les bénévoles, je prends mon petit-déj et je les aide à servir les petits-déj. Ensuite, à 10h, il y a un groupe de marcheurs, c'est des voisins qui, entre eux, ont décidé de marcher. Je vais marcher avec eux, de 10h à 11h30, midi. Et puis l'après-midi, ça va dépendre de ce qu'il peut y avoir. L'après-midi, je peux être soit je retourne au bureau et puis je prends des temps pour écrire, pour prévoir des choses, soit je vais être sur une autre activité. Il y a une fois, je suis partie faire de l'aquagym avec des habitantes qui m'ont conviée, quoi. Donc voilà, vraiment ma journée type, elle ressemble pas finalement à beaucoup de choses.
Bien sûr.
Les vendredis, je suis souvent au petit marché qui est proposé, c'est un point de distribution alimentaire qui est proposé par une asso où je sers des cafés. Donc oui. En règle générale, le vendredi matin, je suis avec une bénévole et on sert des cafés à des gens pour qu'ils aient un espace qui soit convivial pendant qu'ils vont chercher leurs fruits et leurs légumes. Donc voilà.
Eh bien, en tout cas, ton parcours et le sujet est très intéressant. Tu as su en fait t'expérimenter au fur et à mesure de ces 4 ans sur le territoire dans ton domaine, et tu as donc de toute évidence dû faire face à certaines situations. Et je suis curieux de découvrir l'anecdote que tu nous réserves pour tout à l'heure. Mais juste avant, je te propose de faire une seconde petite pause musicale avec un titre de musique que tu apprécies tout particulièrement. Lequel c'est ?
Alors, le titre que j'apprécie, c'est Thelma et Louise de Solane et Yoa.
Ok, très bien. Eh bien, écoutons tout de suite Thelma et Louise.
Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. Je compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. Je méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. Je pardonne à personne, je te l'ai dit, je suis redoutable. Je veux pas de fils de 1, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Pris comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. Bois fort mais ça s'est crémué la queue. Ils ont le mort parce qu'on va briller plus fort qu'eux. J'ai débité des vérités, des petits lapins détalés. Ça leur fait mal de quémander, de baver, de se faire recaler. Ça fait les seigneurs, ça se complète dans le lamentable. S'ils nous balancent des miettes, nous on va retourner la table. Moi je me suis perdu et retrouvé dans les bras de mes douces. À danser autour d'un bûcher, ce soir la lune est rousse. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. Pour l'amour les hystériques, si on leur offre volte-face, ça part en chalade historique. Écran de fumée, tête dans la crasse. Coup de phalange dans les obliques, les ignorés arrivent en masse. Y'a une justice vitriolique à se faire descendre par des pétasses. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol, gloire ou folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, bout de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
Toujours sur Radio G 101.5 FM et en DAB+, vous écoutez les métiers de l'ombre avec notre invitée Eva Camus, sociologue et chargée de projets en santé communautaire. Eva, ça va toujours ?
Toujours.
Parfait. Alors, avec toutes ces étapes qui ont fondé ton parcours, aurais-tu une ou plusieurs petites anecdotes qui t'ont marqué ?
J'en ai, là tout de suite, j'en ai deux qui me viennent en tête. Il y en a une qui est assez marrante. En fait, c'était à mon tout début, quand j'étais en train d'écrire mon mémoire. Et donc là, j'étais donc avec l'autre centre social de Vannes avec lequel je travaillais. Il y avait un stand de café sur le marché. Je prends, pour donner en fait du café aux habitants et faire du lien, je donne le café à une dame hyper sympa et qui commence à me parler en arabe. Alors, je suis d'origine martiniquaise, donc je suis un peu typée, mais et je sais que très vite, les gens peuvent penser que je suis originaire du Maroc, ça revient souvent. Et c'est toujours quelque chose qui peut me faire rire. En fait, c'est hyper sympa, ça donne lieu à des conversations. Mais là, cette dame était intimement convaincue que j'étais la fille de sa voisine. Donc, il s'est suivi littéralement 5 minutes de conversation où j'essayais de lui expliquer par A plus B à quel point je n'étais pas la fille de sa voisine. Et donc, elle était sûre d'elle. C'est-à-dire qu'elle me disait, si, si, t'es la fille de Naïma, je t'ai vu grandir, t'es allée à telle école. Et j'étais en, non, ma mère s'appelle Sylvaine, elle a Dinard. Enfin, je peux pas vous montrer mon carnet de santé. Enfin, mon livret de famille, je l'ai pas. Mais c'était vraiment, 5 minutes qui, à la fin, elle a compris que j'étais donc pas la fille de Naïma. Et si Naïma passe par là, je la salue, quoi. Mais je me rappelle, ça m'avait hyper marqué parce que 5 minutes en janvier où il faisait froid, à devoir essayer d'expliquer que non, je ne suis pas la fille de ta voisine.
Donc, ce qui veut dire que t'as une sosie à Vannes?
J'ai potentiellement une sosie à Vannes. J'adorerais la rencontrer, du coup.
C'est drôle comme anecdote, c'est vrai. La pauvre petite dame, elle t'a confondu avec la fille de sa voisine.
Et puis, elle avait toute la bienveillance du monde, quoi.
Bien sûr.
Vraiment, et je la revois me dire, non, mais tu vas pas me la faire à moi, quoi. Je t'ai vu grandir.
Oui, parce que là.
Désolée de vous décevoir, mais.
La blague aura duré assez longtemps.
Ouais. 5 minutes, c'est hyper long.
Et ta deuxième?
Ma deuxième, elle est plus récente. C'était en octobre dernier. Tous les ans, il y a des grosses campagnes d'Octobre Rose, qui est donc un temps de prévention contre le cancer du sein. Et on fait avec une infirmière de prévention de la ville, on fait des animations dans les assos. Et donc, on fait ce temps de prévention dans une asso de quartier, où on est en petit comité, et c'est une asso qui est très interculturelle, quoi. Donc en fait, à chaque fois qu'on y va, c'est hyper intéressant parce que justement, on rencontre plein de gens, plein de points de vue, et c'est toujours des échanges qui sont très riches. Et donc là, on parlait de la mammographie. Il fallait faire un petit instant mammographie. Et une dame, on va l'appeler Valérie. Valérie nous avoue qu'elle connaît bien. Parce que elle a eu 2 cancers et elle s'en est sortie. Et c'est une dame, ça faisait 2 ans que je la voyais, et elle est très solaire, quoi. C'est un vrai rayon de soleil. Et il y a une autre dame qui parlait pas très bien français, qu'on va appeler Corinne, qui explique qu'elle a reçu le papier, mais elle comprend pas trop en fait ce qu'il faut faire, où faut aller, comment on fait. En fait, quand le français n'est pas notre langue maternelle, mais c'est hyper long et hyper dur de se dire, faut que j'appelle un centre d'imagerie pour qu'on programme et après on donne une date. C'est normal, c'est normal que ce soit galère. Et Valérie finit par dire à Corinne, en fait, si tu veux, tu prends mon numéro et on se revoit et on prendra le rendez-vous ensemble. Et si t'as peur, il n'y a pas de problème parce qu'on a le droit d'être accompagné pour faire une mammographie. Et moi, je viendrai avec toi parce que j'aurais aimé ne pas être seule quand moi, je l'ai vécu.
C'est adorable.
Et elle ne se connaissait pas du tout, quoi. Et il y a eu un vrai truc hyper... c'était très intense et très émotionnel, en fait, de voir une telle solidarité. Et donc, de ce que je sais, Corinne va très bien et Valérie aussi. Donc voilà, c'était, je pense, un moment où je me suis dit, waouh, j'adore faire ce métier pour aussi voir ces moments-là, en fait.
D'être témoin de ce genre d'action.
Et d'y participer, en fait, de se dire qu'il y a beaucoup d'humains sur des thématiques qui sont des fois un peu, qui peuvent être gênantes ou être tabous, quoi.
Ouais. Eh bien, beau souvenir. Belle action de la part de Valérie envers Corinne. Et j'imagine, oui, comme tu l'as dit, que c'est ce que tu aimes dans ton métier. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un métier passion?
Oui, aujourd'hui, c'est un métier passion. Je me verrais pas faire autre chose parce que c'est un métier qui, pour moi, fait sens. Je trouve que c'est important d'avoir du sens au travail, de savoir pourquoi on fait ce métier. Et c'est un métier passion.
Tu es fier de ton parcours?
Plutôt, ouais. Ouais, carrément.
Eh bien, en tout cas, c'est ce que l'on souhaite à chacun d'entre nous, d'entre vous, d'entre tous, de faire un métier qui nous passionne. Eva, encore un grand merci pour ta présence.
Merci à toi pour l'invitation.
Avec grand plaisir. En vrai, c'était très passionnant de découvrir l'envers de ton quotidien en tant que sociologue et chargé de projet en développement et en santé communautaire dans le quartier de La Roseraie. J'espère que nos auditeurs auront un regard différent. Bonne continuation à toi. À très bientôt.
À bientôt.
En attendant, je vous souhaite à tous un très bel été et je vous remercie pour votre fidélité. Ça a été un réel plaisir pour moi d'animer cette émission et de découvrir au fil des mois et des années des nouveaux profils à chaque fois. Je vous souhaite encore une fois à tous un très bel été, excellente journée à tous et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. À très bientôt, bye.